Voilà, Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Donc nous allons reprendre une nouvelle série, cette fois-ci basée sur le livre de l'Apocalypse. Apocalypse qui veut dire révélation, qui n'est pas du tout un livre qui annonce un tas de catastrophes, qui au contraire est le livre de la grande annonce de notre libération définitive avant d'entrer dans le royaume des cieux. Alors à ce propos, on peut remarquer que l'introspection a toujours été une partie importante de la philosophie et surtout de la morale. Socrate ne mettait-il pas en préambule de son enseignement « Connais-toi toi-même ». Se connaître soi-même implique la recherche d'une conduite dictée par l'intelligence plutôt que par la tempête de ses pulsions. En somme, la volonté d'être un homme digne de ce nom. Les passions sont un excellent moteur, mais le volant et le frein sont nécessaires pour pouvoir s'en servir intelligemment. Les chrétiens désignent en général cette introspection sous le nom d'examen de conscience, terme dont l'emploi trop fréquent a quelque peu affadi le sens profond sans rien changer à la nécessité d'un tel exercice. Les manuels officiels prennent habituellement pour guide les commandements de Dieu. Sans vouloir être trop critique, le résultat est souvent décevant, car ce n'est pas tous les jours que l'on est blasphémateur, criminel ou adultère. Cela peut conduire à un inventaire du type de celui du pharisien de l'Évangile, lequel concluait qu'en définitive, il n'était pas si mauvais que ça, et meilleur certainement que ce publicain qui est dans le fond de la synagogue. Lors de l'une de ses conférences, le père Marie-Dominique Philippe, à qui je dois beaucoup, dans le fond je n'aurais jamais pu faire cet exposé si je n'avais suivi ses cours pendant très longtemps. Le père Marie-Dominique Philippe a fait remarquer que l'Ancien Testament était comme la crypte de l'Église. Une crypte est très intéressante et même très importante pour saisir le plan, la conception d'une cathédrale. De plus, c'est sur elle que l'édifice repose. Mais l'essentiel reste quand même la cathédrale elle-même. Concernant l'Église, seul le Nouveau Testament est indispensable, même si l'Ancien est fort utile pour le comprendre en profondeur. Dans cet état d'esprit, le père Marie-Dominique Philippe proposait de faire son examen de conscience selon le plan des corrections que saint Jean adresse aux sept églises d'Asie. Cela ne signifie nullement que les fautes mentionnées dans le décalogue ne soient plus des fautes, mais cela signifie que le décalogue est accompli dans cette phrase du Christ qui, soit dit en passant, est extraite de l'Ancien Testament, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. » À ces deux commandements se résument la loi et les prophètes. Le décalogue n'est là, un petit peu comme la ligne continue sur les autoroutes, le décalogue n'est là que pour donner un peu de lumière aux esprits obscurcis que nous sommes. On peut aussi citer la phrase de saint Augustin, souvent mal comprise, « Aime et fais ce que tu voudras ». L'essentiel est de progresser dans l'amour de Dieu. Ça, c'est le Nouveau Testament. Et chacun sait que l'on n'aime jamais assez. C'est à cette progression dans l'amour que saint Jean cherche à baliser, à accompagner. En restant dans l'Ancien Testament, on peut dire que nous resterions dans le Lévitique. En entrant dans l'Apocalypse, nous entrons dans le Cantique des Cantiques. Les dix commandements donnent la base du culte à rendre Dieu Tout-Puissant, mais le nouveau a permis non pas de les abolir, mais de les accomplir. On passe donc à « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous outragent ». C'est dans l'évangile de Saint-Luc au chapitre 6. La consigne est claire, mais ne trouverait-on pas peut-être quelques commentaires pour nous aider, j'allais dire quelques précisions. C'est dans cette idée que donc le père Philippe a proposé de lire les trois premiers chapitres de l'Apocalypse de Saint-Jean. Saint-Jean, rappelons-le, est le disciple bien-aimé, dont la vie essentiellement mystique fut tout orientée vers l'amour de Dieu. Il est symptomatique qu'à la mort de Saint-Pierre, ce ne fut pas lui qui fut désigné comme chef de l'Église. Pourtant, il avait été le plus proche du Christ. Non, on lui a préféré Saint-Lin, qui avait un sens plus aigu de l'organisation et qui sut garder en vie et développer une Église naissance, déjà en proie à de sévères persécutions. Saint-Jean est l'apôtre du cœur du Christ, du sacré cœur comme on le dit maintenant. L'Apocalypse est le dernier livre de la Bible avec l'évangile de saint Jean, mais dans son prologue, saint Jean l'a défini comme la révélation que Dieu lui a confiée pour montrer ce qui doit arriver bientôt. Heureux celui qui lit, Heureux ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et gardent fidèlement son contenu, car le temps est proche, proche au sens de Dieu, pour qui un siècle est comme une seconde. L'apôtre continue. « Moi, Jean, je m'adresse aux sept églises qui sont en Asie. » Notons en passant qu'elles sont toutes en Turquie, donc que Saint-Jean situait là bien la Turquie en Asie, non pas en Europe. De la part de Jésus-Christ, en quelque sorte, un résumé de la rédemption. Alors la vision d'introduction est assez caractéristique. J'ouvre mon livre pour le lire. J'entendis. Et je me retournai pour savoir quelle voix me parlait. J'aperçus alors sept chandeliers d'or, et parmi eux comme un fils d'homme. Il portait une tunique longue, une ceinture d'or lui barrait la poitrine. Il avait la tête et la chevelure blanches comme laine, d'un blanc de neige. Ses yeux flamboyaient, ses pieds semblaient de bronze fin rougi au four, sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. De la main droite, il tenait sept étoiles, sa bouche dardait un glaive acéré à deux tranchants, et son visage éblouissait comme un soleil ardent. Et alors je vois, il y a le symbolisme des sept étoiles, le Christ les expose, que l'explique un petit peu plus tard. Quant au symbolisme des sept étoiles que tu as vues, dit-il à Saint-Jean sur ma main droite, et des sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc il y a sept églises à qui le Christ va dire ce qu'il a vu, ce qu'il faut faire, les défauts auxquels il faut remédier. Si on regarde un petit peu en détail, on voit que c'est un fils d'homme, il est complètement homme, mais il avait la tête et la chevelure blanche comme des neiges et ses yeux flamboyaient, il est donc aussi Dieu. Nous sommes exactement dans l'optique de la transfiguration. Ses pieds semblaient de bronze fin rougi au four, ce n'est pas le colosse aux pieds d'argile dont avait parlé Ézéchiel, c'est quelqu'un qui ne peut pas changer, qui est solidement établi. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux, c'est donc la voix énorme qu'on ne peut pas ne pas entendre, et de sa bouche dardait un glaive acéré à deux tranchants, car la parole de Dieu pénètre jusqu'au cœur de celui qui l'écoute. Il faut remarquer quand même que le terme de décision, ça veut bien dire décision sévérée, coupée. Les Allemands disent « Entscheiden », bien coupé. Par conséquent, c'est la parole de Dieu qu'il faut suivre, qui coupe de tous les faits que nous avons faits. Comme plan de ces réflexions, que nous commençons donc dans un mois, j'ai choisi la méthode suivante. J'écris bien « je » parce que ces lignes sont strictement personnelles. Ce sont des réflexions personnelles. Donc s'il y a une bêtise dedans, c'est moi qui en suis le seul et unique responsable. Donc les corrections à chaque église comportent une présentation du Christ avec des attributs spécifiques pour chaque cas. En général, un compliment pour les bonnes œuvres de cette église. La correction proprement dite sur ce qu'il convient d'améliorer. La promesse d'une récompense. J'y ai ajouté, puisqu'il y a cette église, le péché capital qui correspond, la mention du don du Saint-Esprit qui me semble correspondre le mieux à l'église visitée, celle d'une des sept béatitudes, l'erreur contemporaine qui lui est antagoniste. Dans l'Apocalypse, on parle d'un dragon à sept têtes et 10 cornes. Il y a une corne pour la tête du centre et une corne pour chacune des têtes de côté, ça fait 10 en tout. Donc, qui correspondent aux erreurs philosophiques actuelles. Et un saint qui me paraît correspondre le mieux au cas invoqué avec une prière au besoin. Tout ceci, je le répète, sous ma seule responsabilité. J'ajoute que je suis prêt à me rétracter si une des propositions était contraire à l'enseignement de l'Église catholique à laquelle je tiens à rester fidèle. Notons que certains commentateurs ont cru déceler dans ces sept églises sept stades de l'histoire de l'Église. Pourquoi pas ? Il semble toutefois risqué de confiner l'Apocalypse à un livre de prophétie du type Nostradamus amélioré, prophétie qu'on ne lit clairement que lorsque les événements prédits ont eu lieu. L'enseignement d'un livre inspiré est valable pour chacun d'entre nous, qu'il vive au 1er ou au 21e siècle. Cela n'empêche pas de repérer certaines coïncidences qui peuvent aider, dans la mesure où chaque siècle peut trouver en lui telle ou telle tendance plus ou moins avancée. Cela peut au moins servir de mnémotechnique. À titre indicatif, voici les correspondances. Éphèse serait la première église, tout de suite après la résurrection. Smyrne, l'église tout de suite après la Pentecôte. Smyrne, l'église des martyrs. Pergame, l'église des pères de l'église, des premières disputes théologiques. Thyatire, l'église de la chrétienté, les 1000 ans qui séparent Grégoire le Grand de Luther. Sardes, l'église de la Renaissance et des temps modernes. Pour les deux dernières églises, la correspondance est un peu floue. Celle de Laodicée semble bien être celle de la fin des temps. Quand le Christ se reviendra, retrouvera-t-il la foi sur la terre, comme le dit Saint Luc dans son chapitre 18. Et celle de Philadelphie, celle du renouveau après les désordres de l'église de Sardes. Au XVe siècle, on l'attendait pour le lendemain. La Sainte Vierge a promis à Fatima que son cœur immaculé triompherait. Ce serait alors l'église de Philadelphie, marquant pour certains donc le début de cette église de Philadelphie. Disons que cette liste est surtout mémotechnique. D'autres correspondances peuvent être singulières, voire amusantes. Certains ont fait remarquer que le XVe siècle, avec la recherche des épices, a été le siècle de la gourmandise. Le XVIe siècle est celle des guerres de religion, celui de la colère. Le XVIIe siècle, le grand siècle, celui de l'orgueil. Le XVIIIe siècle est les frasques du régent, celui de la luxure. Le XIXe siècle est le règne des banquiers, enrichissez-vous, celui de l'avarice. Le XIXe siècle est les luttes sociales, de la lutte des classes, celui de l'envie. Au XXIe siècle, il ne reste que la paresse. Entre le RTT, les grèves et puis la retraite à 60 ans, cela semble bien parti. Cela n'est qu'un sourire pour vous permettre encore de passer de bonnes fêtes de Pâques. À bientôt, au mois prochain. Et merci d'avoir l'indulgence de m'écouter.